Chapitre 11. Le club du samedi. Ce fut donc par l'initiative d'Eudoxie Voitou que le club du samedi fut fondé. La première soirée eut tant de succès qu'on décida à l'unanimité d'en faire une institution durable. Pierre, qui savait bien ce qu'il faisait, proposa que Madame Royat fût la présidente du club. Lucette n'accepta cet honneur qu'en protestant, mais elle chercha à s'en rendre digne et bientôt la réunion du samedi soir devint la préoccupation de toute sa semaine et le principal sujet de sa correspondance avec la famille en Suisse. On fut bientôt 10, 12 et puis 15. La paroi qui séparait les deux chambres du rez-de-chaussée fut enlevée. On y apportait le samedi toutes les chaises de la maison. On y mit un piano américain acheté à bon compte. Madame Martin envoya un gros chèque à cet effet pour s'associer aux aimables efforts de ses enfants. Courtois s'accompagnait lui-même sur ce piano un peu fêlé par deux années de campagne. Il accompagnait aussi les autres artistes, tous pleins de bonne volonté comme exécutants et d'indulgence comme auditeurs. Lucette n'était pas musicienne pour un sou. Elle ne fut pas non plus du premier coup accueillante comme elle aurait voulu l'être. Dans cette soirée de non-voyants, où seule avec Eudoxie et Clément, elle se déplaçait sans difficulté, elle se sentait prise d'une timidité qui lui ôtait sa grâce vive, la spontanéité qui était son grand charme. Elle surveillait sa voix, sachant que chaque intonation est révélatrice pour ceux que le regard n'instruit pas. Et le résultat était, pour elle-même, la contrainte et la froideur, pour son interlocuteur, l'impression qu'il avait affaire à une petite personne guindée. À la fin de la soirée, on offrait du thé et de la brioche, une très grosse brioche confectionnée par Eudoxie. Autant Lucette, peu à peu, reculait à l'arrière-plan, abritée derrière son mari, ne trouvant plus rien à dire à personne, autant Eudoxie brillait comme un astre de première grandeur. Sa cordialité naïve, son enthousiasme comique pour la poésie et pour les poilus, la chaleur de son accueil auraient fondu les glaces du pôle. Eudoxie finit par faire les honneurs de la soirée. Elle saluait, elle guidait les arrivants, elle s'exclamait s'il y avait un nouveau venu, elle le présentait au patron, comme elle disait, et à madame. Et chaque semaine, un poème nouveau s'ajoutait à son répertoire. Elle récita « Le lac » avec de fausses liaisons et un sentiment incomparable. Ayant aperçu un Lamartine sur l'étagère de Lucette, elle l'emprunta, s'y plongea à corps perdu, en émergea avec des perles choisies non sans goût. Elle avait l'excellente mémoire des intelligences incultes qui n'ont pas encore inscrit grand-chose sur leur tablette. Pierre dit un samedi à Lucette, qui l'accompagnait à son atelier, « Il me semble que Doxy te met un peu hors de chez toi. Tu ne trouves pas? Elle tient une place. »«
Puisque je ne sais pas tenir la mienne, » fit Lucette, moitié triste, moitié piquée.
« Pauvre chérie, veux-tu que je te dise, tu t'appliques trop. Tu cherches à être parfaite. Pourquoi, de ton simple naturel, tu es si charmante? Les petites bêtises que tu dis, ta gaieté, ton rire, tout ça disparaît le samedi soir. »
« Ah, je souffre bien la première d'être si gauche. Tiens, je te dirai la vérité. Par moments, j'ai tant de chagrin de voir tous tes pauvres camarades que ma voix s'étrangle. Si j'osais, je sortirais pour pleurer. Crois-tu donc que j'en prenne mon parti, que la guerre ait fait tant d'aveugles? Alors, je voudrais faire sentir ma sympathie, mais sans blesser. Ça me paralyse. Je sens tellement l'avantage que j'ai sur ceux qui ne voient pas. » J'en suis comme honteuse. Toi, Pierre, tu es adapté et la vie, le travail t'intéresse tant que je m'accoutume à ne pas te plaindre. Je sais que tu ne veux pas être plaint. Mais ce pauvre Denis, par exemple, et les trois qui sont venus avec Courtois et qui avaient l'air un peu gênés la première fois, je me dis que c'est ma faute s'ils n'ont pas trouvé le plaisir qu'ils attendaient. Je n'ai pas su les accueillir.
« Pourquoi fais-tu, le samedi soir, cette voix toute drôle que j'ai de la peine à reconnaître ?» demanda Pierre. « La dernière fois, j'avais beau écouter, je n'entendais pas ton joli timbre si clair, si varié. Un nouveau venu a dû croire qu'il parlait à une personne très sérieuse et correcte, habillée de gris foncé. C'était la couleur de ta voix.
« Une une voix gris foncé, c'est du joli !» s'exclama Lucette avec consternation. « Ta voix naturelle est bleue, elle est vert clair, elle est jaune d'or comme le soleil, comme le ciel, comme la campagne. Quand tu ris, tu me fais voir une clarté, ma Lucette, ma chère lumière. » Vous savez tous comme moi qu'on a beau s'efforcer d'être naturel, plus on s'efforce, moins on l'est. Lucette cherchait vainement, le samedi soir, à faire sa voix bleue et jaune d'or que Pierre aimait. Le timbre restait sans éclat, comme celui d'une sonnette qu'une main serre tout en la faisant tinter. La jeune femme s'en désola. « Cela viendra, disait Pierre. Ne t'en fais pas, voyons. Nos petites soirées marchent très bien tout de même. » Oui, grâce à Eudoxie, à la brillante, à l'étourdissante Eudoxie, fit Lucette non sans une pointe de dépit. Chaque semaine, Eudoxie augmente et varie son éclat. Je vois le moment où elle nous jouera Phèdre. Au fait, s'écria Pierre, pourquoi ne monterions-nous pas une petite comédie? Avec quelques points de repère sur la scène, nous ne serions pas nécessairement trop mauvais acteurs. Les soirées sont longues, mes camarades célibataires ne savent tout passer leur temps. Nous pourrions peut-être, en nous adressant au seigneur Bougnat, obtenir assez de charbon pour chauffer notre salle 4 soirs par semaine. Mais, ma pauvre petite, tu nous seras indispensable pour faire apprendre les rôles. Ce serait te demander beaucoup. Je le ferai avec plaisir, répondit-elle d'un élan, à la condition que je joue un rôle avec toi. Et il nous restera encore, par semaine, 3 bonnes soirées à passer en tête à tête. On écrivit aussitôt à une librairie théâtrale pour avoir des pièces. Mais rien ne convenait. C'était trop long ou trop court, il fallait trop de décors, trop de rôles de femmes, ou bien le sujet était à peine convenable, ou alors, s'il était convenable, il était un peu niais. « Notre pièce devrait être faite sur mesure, » dit Lucette. « Parfaitement, c'est ce que j'allais dire. Composons-la nous-mêmes. » « Dans ce cas, pourquoi ne jouerais-tu pas l'aventure de Bellegarde ?» fit Lucette inspirée. Tu aurais ton propre rôle, Eudoxie serait Eudoxie. Moi, je serais la sœur Louise, si tu veux. En prenant l'histoire du commencement, on y mettrait le chef de gare, les voyageurs et aussi les clients de la boutique de Zanzouli et on pourrait y fourrer un détective à cause du trafic des gros sous. On corserait la chose, il y aurait au moins 10 rôles. Et alors, quand la première équipe aura joué, l'autre équipe, celle des spectateurs, apprendra la pièce à son tour pour que chacun ait du plaisir comme acteur et comme auditeur. Lucette s'animait en parlant, elle gesticulait, elle voyait d'avance sa troupe sur les planches. « Excellente idée, dit Pierre. Faudra-t-il écrire la pièce ou tout improviser ? Sais-tu, essayons d'abord en improvisant. Et puis, on fixera une phrase par-ci, par-là. Tu raconteras l'aventure et alors on distribuera les rôles. Tu verras comme je serai bien en sœur de charité. Mais je pose une condition. C'est moi qui dirige, Eudoxie m'obéira. Quand Eudoxie prend trop le dessus, elle m'écrase. Entendu, tu es notre directeur théâtral. D'ailleurs, l'idée t'appartient. Mais non, mon cher mari, c'est toi qui as le premier parlé d'une comédie. C'est toi qui as donné le sujet, ma Lucette. Ainsi, l'honneur te revient avec la responsabilité. Il suffit de quelques jours pour que Pierre comprît que le petit miracle qu'il espérait était accompli. Certes, Lucette fut encore timide en face de sa troupe improvisée, mais elle ne fut plus jamais gauche ni malheureuse. Elle prit un certain petit air d'autorité aimable, elle se sentit intelligente et bien à sa place. Sans qu'elle en eût conscience, la prédominance d'Eudoxie l'avait humiliée, l'avait mise dans une position fausse. À présent, comme maîtresse de maison, comme femme du patron, elle n'avait plus à s'effacer derrière Eudoxie, elle n'avait pas non plus à revendiquer sa place, elle s'y tenait tout naturellement. Il y avait eu pas mal de vanité blessée dans les premiers froissements des premiers samedis, mais aussi beaucoup de sensibilité qui ne savait pas s'exprimer. Lucette, éclipsée par la trop poétique Eudoxie, n'avait pas trouvé les paroles, les petites attentions qui auraient traduit sa sympathie pour les camarades aveugles de son mari. À présent, c'était à elle qu'on s'adressait pour la récitation du rôle, pour l'interprétation. Elle pouvait être tour à tour douce et grondeuse et vive avec un parfait naturel. Sa voix était de nouveau la vibrante clochette qui dominait tout à coup le brouhaha des voix masculines. Chose singulière, on découvrit que Doxy jouait mal. Alors, Lucette mit une patience angélique à lui expliquer que son simple rôle en prose ne devait pas être déclamé comme des vers de Lamartine. Il fallut une bonne quinzaine de jours pour lui apprendre à parler comme à Bellegarde, comme chez Anzouli. « Mais ce n'est point beau, objectait-elle. Vous voulez que je dise, il y a une année que je suis chez Anzouli, et moi, je voudrais dire, l'année à peine a fini sa carrière. Voilà des mots qui coulent, au moins. » « Laissons-la dire à sa façon, prononça Lucette à bout d'explication. Le naturel lui viendra. » C'était assurément Denis Février qui avait le plus d'influence sur Eudoxie. Pour être souvent près d'elle, il s'était inventé un rôle de garçon de boutique chez Anzouli et les dialogues de ces deux-là prenaient un développement considérable. Le garçon balayait sans cesse la boutique et sans cesse Eudoxie lui apprenait à mieux tenir son balai et sans cesse elle lui indiquait des coins mal balayés. Deux rôles de femme, Eudoxie, sœur Louise, et huit rôles d'hommes tenus par huit jeunes aveugles de guerre qui évoluaient sur la petite scène avec une parfaite aisance, s'étant soigneusement repérés dans le décor sommaire des meubles, portes et fenêtres. Ils entraient et sortaient sans rien heurter, ils se tournaient vers un interlocuteur, vers un autre, guidés par la voix, par des frôlements de vêtements. Seul Pierre avait un rôle d'aveugle, ce qui paraissait presque une anomalie. Il en plaisantait. « Voyons, Lucette, n'ai-je pas trop l'air d'y voir? Ça gâterait l'effet si on s'apercevait que j'y vois aussi bien que Zanzouli. » C'était notre grand Courtois qui jouait Zanzouli, avec un accent qui tenait le milieu entre le maltais et le sénégalais. L'épisode de la montre était à faire frémir. On avait arrangé le décor de façon à ce que Doxy s'apercevait couché dans la pénombre d'une arrière-cuisine, soulevé sur son coude et suivant des yeux tous les mouvements du sinistre Turc. Chaque acteur mettait tant de verve et d'abondance dans son improvisation que les trois actes, à la gare de Bellegarde, chez Anzouli, chez Sœur Louise, duraient chacun trois bons quarts d'heure, si bien qu'avec les changements de décor, le spectacle durait trois heures. Le public en avait pour son argent, d'autant plus qu'il ne payait rien. À la répétition générale, Courtois amena un jeune reporter du Petit Parisien et la pièce eut le lendemain les honneurs d'un compte rendu où tous les acteurs recevaient des louanges hyperboliques. On semblait trouver absolument incroyable que des gens qui n'y voyaient pas fussent capables de se mouvoir et de parler. « L'imbécile, fit Courtois, il nous rend ridicule à la face de tout Paris. Ne pouvait-il nous critiquer comme il aurait critiqué d'autres amateurs ?» Ce malheureux compte rendu eut une conséquence inattendue. M. Bougnat le lut à son déjeuner et décida aussitôt que, pour se rendre populaire dans la commune, il espérait en devenir le maire une fois ou l'autre, il inviterait le club du samedi à jouer sa pièce au château Pompadour. Il vint en personne, accompagné de sa dame, faire visite à M. et Mme Pierre Royat et leur formuler son invitation. Le hall du château étant de grande dimension, nous vous garantissons un auditoire de 300 personnes et une recette à laquelle j'ajouterai ma souscription en faveur de l'œuvre de rééducation des aveugles ou simplement en faveur de la troupe elle-même. Et quant à la question du charbon pour le chauffage de votre club cet hiver, nous la considérerons comme connexe à celle de la représentation. Ce qui signifiait clairement pas de représentation, pas de charbon. M. Bougnat tenait à son idée. La soirée se terminera par un petit souper pour les acteurs. Il y aura du champagne. Mon automobile sera à votre disposition pour le transport des acteurs et des accessoires. La distance n'est pas bien grande, fit Pierre en souriant. C'est égal, déclara M. Bougnat d'un ton grandiose. L'auto a toujours du charme pour ceux qui n'y sont pas habitués. Pendant ces discours, Lucette contemplait le chapeau de Madame Bougnat, un chapeau de 300 francs, tout hérissé d'aigrette comme la coiffure d'un chef peau rouge. « Je vois que mon chapeau vous plaît, dit la dame. C'est mon plus simple pour quand je vais faire des visites sans cérémonie, comme aujourd'hui. En voisine, n'est-ce pas ?» Le petit salon où elle promenait ses regards lui semblait fort mesquin, avec son meuble Louis-Philippe, son parquet nu et son manque complet de bibelots. « Je suppose que vous êtes en garni, fit-elle. Pour un jeune ménage, ça peut aller. Nous-mêmes, M. Bougnat et moi, nous avons commencé modestement. Nous ne sommes pas fiers du tout, je vous assure. La belle position de M. Bougnat, il la doit à son travail. » « Et un peu à la guerre, sans doute, » fit Lucette avec un petit sourire. Ah, la guerre a fait bien des choses, des mauvaises, des bonnes. L'usine Martin et Gavenat a pas mal profité de la guerre aussi, rétorqua la dame du charbon d'un ton assez aigre. Lucette rougit et se tut. Il est très difficile, en effet, de discuter sur ce sujet quand on a un papa qui a gagné beaucoup d'argent dans les munitions. Du moins, elle était heureuse de penser que Pierre et son petit atelier n'avaient aucun intérêt dans les industries de guerre. En 1917 et 1918, la Magnéto Roya avait contribué à la défense de son pays et l'inventeur y avait gagné sa vie sans s'enrichir. Pierre répétait constamment « Devenir riche ne doit pas être le but du travail ». L'esprit de Lucette s'était si fort éloigné en quelques secondes de la présence de Madame Bougnat qu'elle tressaillit quand sa visiteuse reprit « Nous aurons l'occasion de nous voir pendant les préparatifs de la représentation. Venez prendre une tasse de thé au château quand vous voudrez. » Pierre était pour refuser la proposition Bougnat, mais sa troupe fut d'un avis contraire. Jouer sur une scène plus grande, devant un auditoire 10 fois plus nombreux, souper ensuite et boire du champagne, encaisser une belle recette, c'était beaucoup d'avantages, sans compter le charbon pour l'hiver. Donc on accepta et une date fut fixée pour la représentation. C'était un mercredi, jour de grande agitation et de trac général. On avait répété dans le décor, chaque acteur s'était rendu compte de la place des meubles, avait exécuté ses entrées et ses sorties. La jeune Madame Courtois fonctionnait comme habilleuse. On avait un uniforme complet et casquette de chef de gare, un costume de sœur de charité, un fez rouge à floques bleues pour le turc, afin que l'auditoire sût bien qu'il voyait un turc. M. Bougnat arriva lui-même en automobile à la porte du 17 rue Vaneau pour emmener les acteurs qui y étaient réunis. J'ai un nouveau chauffeur depuis hier. Je tenais à l'accompagner pour qu'il n'y ait pas de méprise, dit-il. On va vous emmener par paquet de 5 et des bagages. Eudoxie prendra les devants avec Clément pour recevoir ceux qui arriveront ensuite, arrangea Courtois. Je prends M. Denis avec moi et M. et Madame, déclara Eudoxie. Non, dit Pierre, il ne faut pas que tous les voyants partent les premiers. Tu veux bien rester avec la seconde escouade, Lucette ? Certainement, répondit-elle, charmée d'être dispensée d'obéir à Eudoxie. La belle auto ronflait sur la chaussée. Ses phares resplendissants illuminaient la rue d'un bout à l'autre. Le premier paquet, comme disait M. Bougnat, se groupa sur le trottoir. Le chauffeur, correct, vêtu de cuir brillant, la casquette sur les yeux, se tenait près de la portière ouverte. Eudoxie s'avança, tenant Denis par la main. Mais elle s'arrêta. « C'est monsieur qui doit monter le premier, » fit-elle. En cet instant, le chauffeur remarqua sans doute quelques dérangements dans la machine, car il plongea brusquement presque sous la voiture. Sa casquette lui tomba de la tête et alla rouler sur le pavé, puis, suivant l'habitude perverse des casquettes et chapeaux, au lieu de rester où elle était, elle roula un peu plus loin, car la rue avait une légère pente. Elle était là, toute noire et ronde, dans l'éventail lumineux du phare de gauche. Le chauffeur se précipita après son couvre-chef et pendant un instant, sa tête nue, son visage glabre, se trouvèrent vivement éclairés. La sympathique Doxie, qui avait eu ses yeux fixés sur la casquette fugitive, les ramena vers la tête du chauffeur soudainement apparu, les y laissa fixer, comme si elle ne pouvait plus s'en détacher. Elle eut une minute l'apparence d'un sujet hypnotisé. Aucun son ne sortit de sa bouche, mais ses doigts se serrèrent comme des pinces autour du poignet de Denis. Déjà, Pierre était monté dans l'automobile, M. et Mme Courtois avaient suivi, mais Eudoxie semblait paralysée. « On reste ici, Mademoiselle Eudoxie, » demanda Denis un peu impatient. « mais non, montez, je vous suis, » fit-elle d'une voix drôle à travers ses dents. Le chauffeur revenait avec sa casquette et allait prendre son siège quand Eudoxie se dressa près de lui. « Comme on se retrouve ? » chuchota-t-elle.